Maurice Renard, Gardner et l'invisible. Gardner habitait maintenant une jolie maison à Nogent, au bord de la Marne. J'allais le voir dès le début de mon séjour à Paris. Notre dernière rencontre datait de 2 ans. Il me reçut avec un enthousiasme. Je distinguais une pointe de fébrilité. Cela me surprit, car j'avais toujours connu un Gardner des plus flegmatiques des chimistes. Vieilli, non, changé plutôt. Gardner était à présent un personnage saccadé, agité et presque bavard, avec des yeux où brillait une ardeur distraite. L'air occupé d'autre chose. Si bien que une de mes premières paroles fut « Au moins, Gardner, je ne vous dérange pas. » Il me prit les mains. « Vous, mon cher Krauss, une pareille pensée, mais je vous jure que votre visite est la chose que je pouvais souhaiter le plus au monde. Vous entendez ?»« Oh, trop gentil, » dis-je en souriant. « Non, ne répondez pas comme cela. Je n'ai pas dit une politesse banale, Krauss. » Il me tenait aux épaules et plongeait son regard dans mes yeux. Puis, se séparant de moi brusquement, il se mit à marcher en tous sens, se rongeant les ongles, se frottant la face sans ménagement et parfois s'arrêtant devant la grande baie vitrée qui donne sur la rivière et les arbres magnifiques. Il s'immobilisa tout à coup et me fixa de ses prunelles qui semblaient toujours ne vous regarder qu'accessoirement. Krauss, vous êtes le meilleur homme que j'ai rencontré dans ma vie. L'ami le plus sûr. Il faut que quelqu'un sache ce que je fais. Eh bien, ce sera vous. Je ne répondis rien en m'efforçant de prendre une attitude grave et digne. Il réfléchit encore pendant 3 ou 4 minutes, ce qui est très long en réalité, et se décida en faisant un nouveau geste nerveux. « Oh, tant pis, voyez-vous, Krauss, j'hésitais sur la façon de vous confier mon secret. Dois-je vous parler à haute voix, ou bien écrire, ou bien employer quelque autre procédé ? » ?»« Eh bien, plus j'y réfléchis, plus je crois qu'il est inutile d'y réfléchir, puisque je ne sais rien d'eux, rien de leur sens, rien de leur savoir, et que peut-être ils lisent dans ma tête toutes mes pensées. » Il me fit traverser son laboratoire qui offrait un admirable et incompréhensible spectacle. C'était une vaste salle lumineuse, remplie de choses inconcevables, de dispositifs mystérieux, de reflets cristallins, de feux rouges, de petits bruits d'ébullition et de fuites de gaz, d'odeurs inquiétantes. Puis, par un étroit sentier montant, Gardner me mena dans une chambre plus spacieuse encore qu'il éclaira au moyen d'une forte lampe à arc car elle était obscure comme un caveau. D'un geste bref, avec un coup d'œil d'une extrême vivacité, il me désigna, sortant du mur, une série de tubes munis de robinets et qui donnaient à même l'espace. Ces tubes semblaient préparés pour fournir du gaz à des appareils de chauffage. Gardner me dit rapidement après qu'il communiquait avec le laboratoire. J'étais de plus en plus étonné et même impressionné de l'instabilité de ses regards. Il ne cessait de les promener de haut en bas, de droite à gauche, comme un malade sujet à des hallucinations interroge le vide avec la crainte des fantômes qui peuvent s'y former. Mais l'attente, intense préoccupation avait ressaisi Gardner. Il fit, pour la 3e fois, un geste brusque d'incertitude d'anxiété. Et ce fut à voix basse, la bouche contre mon oreille, qui m'exposa l'étrange conception de son entreprise. Chaos, après tout, je vous dirai la chose aussi vite que possible. C'est plus prudent. Écoutez, Chaos, c'est ici que le monde invisible doit apparaître pour la première fois à des yeux humains. Le monde invisible, murmurai-je stupéfait. Il secoua la tête d'impatience. Allons, dit-il, vous savez bien que nos cinq sens sont impuissants à nous faire percevoir tout ce qui existe. Des sens, il en faudrait probablement des milliers pour avoir une perception totale du monde. Nous sommes donc entourés d'une quantité de choses et d'êtres que nous ne voyons pas, que nous n'entendons pas, que nous ne sentons d'aucune manière, parce qu'ils sont invisibles, silencieux, impalpables, etc. Voilà le mystère au milieu duquel nous vivons, et qui n'est pas niable. Depuis 100 ans, la science a découvert assez de choses, assez d'êtres, jusqu'alors insoupçonnés, pour ne soyons pas certains de n'être pas sur Terre, à nous seuls, aussi seuls qu'il paraît. Des compagnons invisibles nous environnent. Ils nous croisent sans bruit, ils nous traversent peut-être. Ils sont mêlés à notre existence sans que nous nous en doutions. Leur présence n'est sans doute pas sans effet sur la nôtre. Et sans eux, nous ne serions pas ce que nous sommes. De même que sans les microbes et les radiations, nous aurions un genre de vie tout à fait différent. Une possibilité terrible, ce serait que parmi ces invisibles, il y en ait qui fussent nos maîtres. Comment ? Mais oui, Krauss, nous nous croyons libres, mais le sommes-nous ? Les actes nous accomplissons avec la certitude de n'obéir qu'à notre volonté ne sont-ils que le résultat de poussées, de suggestions, d'ordres tyranniques émanés des despotes insaisissables ? Beaucoup plus forts que nous et plus intelligents. L'humanité est peut-être que leur... L'humanité n'est peut-être que leur bétail. Reprendre à cet endroit-là, juste ici. L'humanité n'est peut-être que leur bétail, un bétail dont ils se nourrissent. Quand nous souffrons, quand nous sommes malades, pourquoi ne leur est-il pas décidé pour nous prendre de l'énergie, du fluide ou je ne sais quoi, et réparer ainsi leur propre perte physiologique? Et quand nous mourrons, serait-ce qu'ils nous tuent ? Mais c'est effrayant, balbutiai-je. Oh, continua-t-il, j'ai trouvé le moyen de rendre visible momentanément tout ce qui ne l'est pas normalement. Dans cette salle close, que je ferai envahir par un mélange gazeux, tout ce qui est invisible apparaîtra. Je verrai, Krauss, comme je vous vois, ce que nul homme n'a jamais vu. Les êtres qui sont au-delà de nos sens, leur corps, leurs mouvements. Ce sera le commencement d'une lutte immense, en tout cas, d'une ère d'observation illimitée. Quand je dis que j'ai trouvé, non, il me faut encore 8 jours, et tout sera au point. Quel triomphe alors, à moins que, achevez, que craignez-vous? Vous le savez bien maintenant, Krauss, ne serait pas si blême. Êtes-vous occupé à Paris, reprit-il. Tout froidement, Serait-il possible de venir me voir tous les jours? Je vous en aurai de la reconnaissance, mon ami. En auto, le voyage est court. Bon, c'est entendu. Mais dites-moi, Gardner, ces êtres, ces monstres, enfin, quel aspect, selon vous? Chut, fit-il. Nous n'avons que trop parlé. Si notre pensée mérite, muette, leur est fermée, et s'ils comprennent notre langage, ce que je viens de vous dire m'a trahi. Ici, je le regardais comme je n'avais jamais regardé personne. J'éprouvais la vivante fierté de me trouver en face d'un prodigieux surhomme. Et puis, sans transition, son visage constamment aux aguets me troubla, et je le quittais sur une impression de perplexité. Le lendemain et le surlendemain, j'allais le revoir. Il ne me souffla plus mot de ses recherches, mais elles nous passionnaient tous les deux, et les regards que nous échangions en disaient long. Et le jour d'après, il me reçut en prononçant ce simple mot, d'un ton frémissant. « Trouvez, ce sera pour demain !» Mais à l'aurore, Gardner, frappé d'apoplexie, était mort. Hasard, surmenage, exécution, mort, voilà ce qui est certain. Et dans une enveloppe cachetée avec une lettre où le savant envisageait l'éventualité de sa fin, il me livrait la formule compliquée qui devait faire surgir pour lui tout ce que la nature nous a caché jusqu'à présent. Et il me donnait des indications pratiques et minutieusement rédigées que je me décidais à tenter moi-même l'expérience extraordinaire. Oh, il est possible que je ne prenne pas toutes les précautions voulues pour manipuler les substances chimiques. Il est possible que je ne me garantisse pas convenablement des émanations de vapeur et des rayons. Toujours est-il que depuis avant-hier, mes yeux me font très mal et ma vue baisse avec rapidité. L'occultiste que j'ai consulté demeure indécis sur les causes de ces troubles, mais il ne m'a pas dissimulé que, s'il persiste, je puis devenir aveugle en quelques heures. Oh, mon pauvre Gardner, non, pardonnez-moi, l'inconnu m'épouvante, je renonce.